Alors, je viens présenter Guillaume parce qu'en fait, c'est un de mes étudiants à l'école polytechnique. Il est tombé dans le punk parce que je lui ai proposé un sujet. J'avais depuis longtemps, je regrette que Michel Ctu soit pas là aujourd'hui, mais il est malade. J'avais depuis longtemps numérisé le fond de flyer de la miroiterie. J'avais ni le temps ni les compétences techniques pour faire ce que je voulais en faire. Donc j'ai profité des compétences de Guillaume, qui évidemment, donc c'est un projet que les étudiants ont à faire en un temps assez court. Donc Guillaume, il est en équivalent M1 ou M2 M1. Et donc, ils ont quelques semaines, en fait, pour rédiger une trentaine de pages d'un petit mémoire. Et donc, évidemment, il n'a pas pu s'occuper de tous les flyers. Il m'a juré qu'il le ferait plus tard. Voilà, donc il en a sélectionné et de manière représentative et il a essayé d'en faire une analyse, donc de programmation. Et voilà, il est venu nous présenter ses résultats. Donc, c'est pas facile quand on a 20 ans de venir parler à un colloque comme ça. Donc, voilà, bravo Guillaume. Et donc, on t'écoute avec attention.
Alors, bonjour. Merci beaucoup du coup pour la présentation. Voilà, moi je connais quand même relativement peu le milieu du punk puisque j'ai découvert ça il y a 3-4 mois quoi. Mais je crois que j'ai quand même quelque chose d'intéressant à vous dire et je suis ravi d'être là de vous présenter ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je vais parler de la miroiterie. En gros, je sais pas à quel point vous connaissez le lieu. C'est un squat qui a été qui est apparu en 98 à Paris et qui a vécu très longtemps jusqu'en 2014. Donc les occupants ne pensaient pas aller jusque-là, mais bon, ils ont réussi à développer un espace culturel assez important donc dans le 20e et qui a duré jusqu'en 2014 du coup, qui était une scène punk, qui faisait aussi des activités pour le quartier en proposant des concerts de jazz le dimanche et des activités aussi culturelles comme des cours de danse pour le quartier, etc. Donc c'était un espace assez ouvert qui tournait bien. Alors, donc moi, j'ai travaillé sur beaucoup de flyers. Il me semble qu'il y en avait 700 au total. J'ai pu en analyser que 150 parce que ça prenait un peu du temps. Et donc, en gros, il y avait principalement des flyers de concerts et aussi quelques prospectus pour des expositions, des festivals, etc. Et donc, moi, mon but, c'était de analyser tous les groupes. Donc, je me suis basé uniquement sur le côté musical. Et j'ai essayé d'analyser tous les groupes qui passaient par la miroiterie, essayer d'en tirer des dynamiques globales et essayer de comprendre un peu la direction de la programmation, comprendre comment est-ce qu'on pouvait analyser la scène punk en France et aussi à l'étranger, on le verra, avec ces données-là. Donc c'est beaucoup un travail statistique. Je pense qu'il manque quand même une dimension sociale. Mais il y a quand même des données intéressantes à en tirer. Alors, tout d'abord, on voit avec les flyers que la miroiterie était vraiment une scène assez importante, très emblématique du punk, donc qui transpire le punk en fait. On a des flyers qui sont en fait qui reflètent bien l'imagerie du punk avec donc avec les petits bonhommes à crête, les crânes, etc. L'affiche assez provocatrice ici du concert. Donc c'est bien, il y a vraiment l'imaginaire punk qui apparaît tout de suite. Et donc qui rayonne de manière assez importante, puisque là on voit un flyers qui met en scène plusieurs groupes, dont DOA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est donc un des fondateurs du hardcore au Canada, enfin en fait un des fondateurs du hardcore international. Donc il y a un groupe canadien. On a aussi Hard, je ne saurais pas le prononcer, mais Hard Once, qui est un groupe australien, qui est aussi un groupe punk issu de la deuxième vague aussi. Et Attentat Sonore, qui est un groupe français, lui, de Limoges, qui est pareil, né pendant la seconde vague du punk, donc dans les années 80, qui a aussi eu une influence assez importante sur la scène punk, et également Union Jack, qui lui vient de Paris, mais qui était aussi assez connu. Donc tout ça pour dire que on a des groupes qui viennent de partout, qui sont très connus, enfin pour une partie d'entre eux. Donc la miroiterie, c'est pas n'importe quelle scène, c'est-à-dire que elle a su faire venir des artistes influents, et finalement on avait une vraie scène punk en plein cœur de Paris. Alors, cela dit, il faut pas se dire que c'était une scène qui était restreinte uniquement au punk, parce que tout d'abord, en fait, dans le punk, c'est complètement multiculturel, c'est-à-dire que là, sur l'affiche qu'on voit, on a tous les styles de punk possibles, imaginables. Enfin, non, pas tous justement, parce qu'il y en a énormément, mais on en a beaucoup. Ouais, vous pouvez sûrement pas lire, mais on a du punk hardcore, on a du fastcore, du greencore, qui sont un peu pareils, on a du punk rock plus classique, on a de la ska, voilà, et on a aussi des groupes qui sont moins liés à ce milieu, des groupes rock ou pop rock, et puis on avait également, je crois qu'il y en a pas ici, mais on avait également pas mal d'artistes rap, ou du hip-hop qui était invité. Donc on a vraiment une scène assez, assez ouverte. Et donc c'est assez intéressant de voir que c'était une scène qui était orientée sur le punk, mais qui arrivait à afficher une diversité assez étonnante dans ses concerts. Ensuite, alors je me suis intéressé à l'âge des groupes. L'âge des groupes, c'est pas l'âge des musiciens, c'est la date, enfin le temps depuis la date à laquelle ils ont été créés. Et donc on voit que on a une forte concentration entre 1 et 4 ans, ce qui signifie qu'on a des groupes assez jeunes qui sont là, des groupes plus ou moins éphémères qui n'ont pas forcément de notoriété encore dans la scène, et donc ont des profils assez différents, mais on a aussi également entre 5 et 35 ans des groupes qui sont bien installés, qui ont fait leurs preuves, qui sont connus, et en fait on a une équitable répartition entre les deux catégories, c'est-à-dire entre les groupes assez jeunes, entre 1 et 3 ans, et les groupes qui ont de l'expérience, qui sont expérimentés, donc qui vont jusqu'à 35 ans de carrière. Et alors ça, c'est, je sais pas à quel point c'est annexe, mais on a une proportion de groupes mixtes qui est assez intéressante à observer. Alors donc j'ai regardé parmi les groupes punk, enfin j'ai fait une séparation entre les groupes punk et les groupes pas issus du mouvement punk, et on s'aperçoit qu'on a 30% de groupes mixtes, donc de groupes qui possèdent au moins une fille dans leurs effectifs, contre 15% chez les groupes non-punk. Alors ça, c'est sûrement dû au fait que, comme on a beaucoup de rappeurs en solo, aucun rappeur n'est une rappeuse, et donc ça baisse beaucoup les chiffres des groupes non-punk. Mais par contre, une autre statistique intéressante que j'ai trouvée, issue des données du gouvernement sur les festivals en 2018, qui nous dit qu'on a 23% des groupes qui apparaissent dans des festivals qui sont mixtes. Donc là, on voit qu'on a quand même une plus grande proportion de groupes mixtes à la miroiterie que dans les festivals en France, ce qui est quand même assez notable, et qui témoigne d'une intégration assez, assez intéressante. Donc tout ça pour dire qu'on a une vraie diversité sur la scène de la miroiterie. Ensuite, une autre information qui m'a paru importante, c'est l'origine géographique des groupes. Alors, donc, on voit qu'on a un peu plus de la moitié des groupes qui viennent de Paris. Je ne sais pas si vous si vous arrivez à voir les légendes, mais en gros, le violet, c'est les groupes parisiens. Le orange, c'est tous les groupes de province française, et donc non parisiens. Et les groupes en vert, le vert, c'est les groupes qui viennent de l'étranger. Donc, encore une fois, on a une vraie une mise en valeur de la scène locale parisienne, mais on a également une intégration de la scène française qui vient de pas de Paris. Donc on a 30% environ, et aussi la présentation de groupes internationaux, donc qui vient renforcer encore la diversité. Donc il n'y a pas de parti pris entre scène locale ou scène globale, c'est-à-dire que les deux sont représentés de la même manière à peu près. Et c'est assez intéressant de voir aussi qu'on a dans le orange, on a une multitude de villes, par exemple, qui fait que les groupes viennent de partout en France. C'est pas uniquement des groupes qui viennent de Lyon ou d'autres grandes villes. On a vraiment beaucoup de villes représentées. Pareil pour l'étranger, on n'a pas que des groupes du Royaume-Uni. On a pas mal de pays aussi qui sont représentés. Donc là encore, on voit que c'est une scène qui arrive à bien s'intégrer à la fois dans le paysage local, donc dans le punk parisien, mais aussi qui arrive à mettre en valeur des artistes de partout. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces observations, on va essayer d'en tirer des interprétations, des conséquences. Tout d'abord, comme je l'ai dit, la miroitrice c'est quand même la miroitrice s'est fait un nom dans la sphère punk et avec un nombre incalculable de concerts et tous les groupes qu'elle a pu présenter avec plus ou moins de notoriété pour chaque groupe. On voit que donc c'est une vraie scène punk qui était assez importante. Et c'est également un lieu de connexion parce que comme vous l'avez vu, on a toutes les cultures punk qui sont représentées et on s'aperçoit que dans les concerts on a un mélange entre toutes les catégories, c'est-à-dire que on a parfois des groupes internationaux qui viennent dans les mêmes concerts que des groupes locaux parisiens qui existent depuis un an. Et on a souvent des concerts à beaucoup de groupes, c'est-à-dire qu'il y a peu de concerts où on a un seul groupe qui est représenté. Donc ça permet l'échange entre les groupes et ça permet donc de mélanger un peu toutes les cultures qui appartiennent à la grande culture qui est la culture punk. Et ça me permet aussi d'observer les espaces du punk en France. Donc là, la carte qui est affichée, c'est la carte des origines des groupes que j'ai pu analyser. Donc on voit pas très bien, mais le vert, c'est quand il y a un groupe qui vient du département. Le jaune, quand il y en a deux. Le orange, quand il y en a trois. Et le rouge, quand il y en a quatre. Et donc le noir, j'ai mis l'Île-de-France à part parce que déjà, je peux pas analyser l'origine exacte de chaque groupe de l'Île-de-France. Et il y en a beaucoup. Mais donc on voit que la carte est assez homogène, on n'a pas de région qui est sous-représentée, on n'a pas de région qui est sur-représentée, et on s'aperçoit que la mobilité n'est pas forcément un gros problème pour les groupes punk, puisque les groupes viennent de partout, ils n'hésitent pas à se déplacer à Paris donc pour trouver une salle de concert déjà, parce que c'est pas forcément évident de trouver des salles accueillantes. Et donc pour se faire connaître. Aussi on voit que le punk, même si c'est un mouvement qui est urbain, c'est pas un mouvement qui provient des mégalopoles, parce que on n'a pas que des grandes villes comme Lyon ou Lille ou Rennes. Par exemple, on a la ville de Besançon qui me tient un peu à cœur parce que je viens de par là. Et qui a quand même deux groupes qui viennent de cette ville, alors que c'est quand même une ville qui est dans son environnement, dans sa structuration complètement différente de Paris. Et donc on s'aperçoit que le punk il peut apparaître partout en fait, dans tout type de région urbaine. Ensuite, pour l'intégration dans la culture française, on s'aperçoit que la miroiterie cherche à s'ouvrir. Donc, comme je l'ai dit, elle s'ouvre à son quartier, etc. Elle organise aussi donc des concerts pour la fête de la musique, pour par exemple un festival qui s'appelle Art et Squat, du Palais de Tokyo. Donc, on a une intégration dans les événements culturels de Paris. Cependant, cette intégration est quand même assez marginalisée et on n'a pas de, on trouve relativement peu de retour de cette intégration puisque, enfin, la miroiterie est assez peu documentée. On trouve peu de références de la miroiterie dans la presse standard, etc. Et donc c'est peut-être ce qui a mené au fait que les occupants ont été délogés. On a quand même une marginalisation de la scène, même si on a quelques efforts d'intégration dans la culture plus standard. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ma conclusion. Bon, c'est un peu moins développé que les recherches de Manuel, mais c'est quand même assez intéressant. Voilà, et du coup, je vous ai mis quelques ressources que j'ai utilisées, notamment donc, le travail de Solveig et de Luc, que j'ai trouvé assez incroyablement développé pour un thème qui n'était pas trop renseigné jusqu'alors. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Guillaume. Alors évidemment il manque le deuxième volet, mais ça on va le faire quand même, qui aurait été de parler à Michel en tant que programmateur pour avoir le côté expliquer les raisons de la programmation. Enfin, on parle quand même sous le contrôle de Laurence qui a été à la miroiterie un certain nombre de temps, mais en plus c'est compliqué par le fait que Michel ne programmait pas tout de suite depuis le début. Enfin, il s'est mis à programmer vraiment au milieu de la période, donc il faudrait arriver aussi à... Et il n'y avait pas que lui qui programmait, notamment les concerts de rap sont programmés, le jazz, c'est ça. Mais donc il manquerait tout le volet qualitatif, hein, comme on dit, ouais, l'analyse quantitative. Mais en tout cas, ça montre quand même tout ce que ça peut apporter pour nous comme preuve de ce qu'on sait et qu'on peut... Enfin là, au moins, il y a des chiffres, c'est montré sur une carte. Et donc, ce n'est pas que nos fantasmes, c'est avéré. Voilà, donc c'est
d'ailleurs, vraiment... S'il y a eu des bêtises qui ont été dites pendant l'exposé, il faut me le dire, parce que étant donné que j'ai fait que des recherches par moi-même sur Internet et que j'ai pas eu de validation derrière, c'est possible que je me sois trompé sur des résultats ou sur des analyses derrière. Donc,
Non, j'ai trouvé ça très juste comme analyse, effectivement, pour quelqu'un qui découvre. Voilà, c'est un peu ce qu'on a vécu, donc je trouve que c'est très bien et à poursuivre, bien évidemment, mais ça donne une bonne représentation. Et voilà, juste la miroiterie a commencé en 99, je crois.
J'ai oublié de préciser en introduction que notre question qu'on avait avec Luc, c'était de montrer que la miroiterie, c'était un lieu-monde, en fait, qui condensait, qui était une micro-scène parisienne, mais qui, un lieu-monde, en tant qu'elle avait accueilli des groupes, justement, du monde entier, et que c'était sa force aussi, et que ça relativisait le discours sur... en fait, on fait rien en France sur le punk, etc., etc.
Oui, enfin, puis qu'elle constitue un repère pour la scène internationale. Voilà, c'est-à-dire exactement. Que les groupes viennent et ils veulent jouer à la miroiterie, ouais. Hein, ce qui est quand même assez étonnant, parce que c'est un lieu totalement informel. Et...
Bah, c'est précisément pour ça qu'ils voulaient venir jouer à la miroiterie, je pense. C'est parce qu'il n'y avait pas de compromis. On venait, on jouait, on posait ses affaires et puis on repartait. Quoi, hein. C'était ça l'intérêt. Et c'est pour ça que ça attirait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais,
puis c'était Roots.
Alors moi j'ai une question, mais en fait je suis pas sûr que tu pourras répondre, mais je vais essayer de me concentrer sur du coup les flyers. Mais est-ce que les squats interagisseraient entre eux? Genre par exemple, est-ce que dans sur tes flyers tu pouvais voir genre s'ils faisaient des concerts liés entre eux? Par exemple samedi il y aura tel groupe à la miroiterie et dimanche ce sera dans un autre squat ou tout ça.
Alors effectivement il y a des, je me suis pas suffisamment renseigné sur tous les squats de Paris, mais il y a des flyers qui qui regroupe les plusieurs jours dans plusieurs squats différents. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de l'organisation, comment la communication s'est faite, mais effectivement, il y avait probablement de la communication, puisqu'on a des concerts qui sont entre guillemets regroupés entre les deux, enfin entre plusieurs squats.
Très courte par rapport à la datation pour chaque groupe, tu as trouvé la date de création facilement, ou parce que ça fait quand même un paquet, mais si tu en as étudié que 150, enfin flyers.
Oui, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps au début, surtout qu'au début j'ai essayé d'élargir au maximum le panel d'informations que je pouvais trouver, et je me suis rendu compte assez vite que je pouvais pas, en fait.
Parce que je précise qu'il n'y a pas toujours l'année sur les flyers. Donc, il y a un petit travail de calendrier. Donc, tous ceux qui font des flyers, pensez bien à mettre la date pour les historiens. C'est sympa.
Oui. C'est le problème des flyers, c'est que, enfin, que ce soit musique ou dans d'autres domaines, on ne met jamais les dates.
C'est ça.
Il y a la date,
mais après, voilà. Ça se reconstitue avec un calendrier, les années bissextiles, tout ça, mais c'est compliqué.
Oui, c'est vrai, pas faux. Merci du...
Donc, j'ai quand même beaucoup utilisé le site Discogs, qui est une source complète. De données assez complète, même si certains n'étaient pas référencés sur Discogs, mais voilà. J'ai aussi utilisé le groupe Facebook pour voir... ça pouvait être approximatif des fois entre la création du groupe, la création du groupe Facebook, c'est pas forcément la même. Mais de manière générale, j'ai réussi à me débrouiller à avoir à peu près toutes les dates, mais quand je les avais pas, je les mettais pas, et j'ai quand même réussi à avoir une source de données assez complète pour tirer des conclusion intéressante.
Et tu éloignais du coup, si tu trouvais pas, tu éloignais, tu prenais un autre échantillon, quoi.
Oui, je le mettais quand même dans l'échantillon parce que de manière générale, j'avais toujours le style de chaque groupe, donc je pensais que c'était intéressant de le mettre, mais par contre, quand j'avais pas la date de ce, je le mettais pas dans les calculs de moyenne, etc. Enfin, je m'arrangeais pour que ça impacte pas les données que j'avais, quoi.
Okay. Et tu n'as jamais eu à contacter les acteurs, en fait, les groupes.
Le pauvre, il a pas eu le temps.
T'as pas pu, ouais, 4 mois. Ouais.
J'ai pas fait, j'ai pas essayé parce que, c'est un peu terrible, mais j'ai eu peu le temps de même d'écouter la musique des groupes parce que j'avais quand même, j'ai pu en analyser 150 groupes.
Mais c'est beaucoup, c'est magnifique en 4 mois, super. Voilà.
Ça prouve quand même tout l'intérêt de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire un travail hors de nos disciplines. Nous, Luc et moi, on n'est pas du tout capables de faire ce genre d'analyse intelligemment. Mais non, mais...
Si tu le dis. Non, mais on peut imaginer à long terme. Moi, j'ai trouvé le travail super. On peut imaginer une base de données miroiterie, tu vois, que tu mettes en collectif et qui pourrait être aussi renseignée. Voilà. Manière extérieure.
J'ai juste une question pour toi, très pratique. Tu as utilisé quoi comme logiciel et quoi comme traitement d'analyse ?
C'est pas un piège,
c'est juste pour savoir, je suis vraiment intéressé.
C'est un tableau Excel, tout simplement.
T'avais ça sur Excel, croisé dynamique.
Oui, j'aurais pu à la fin, j'ai un peu galéré à mettre en perspective les données. Mais je pense que ça suffisait pour ce que j'avais à faire. Ça suffisait.
Pour plus tard, peut-être une ACM et tout, ça pourrait être simple.
Bon, merci beaucoup à tous nos intervenants de la première session.